Voilà, nous continuons notre série concernant les questions difficiles, récurrentes, donc qui reviennent souvent dans les milieux chrétiens et essentielles. Nous prenons une question qui nous a été posée. Il est écrit dans 2 Timothée 2, au verset 15. Je crois que c'est 1 Timothée plutôt. 1 Timothée 2, verset 15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère dans la foi, dans l'amour, dans la sanctification avec modestie. Donc, je relis la question. Il est écrit que la femme sera sauvée si elle devient mère. Si le salut est gratuit, donc Éphésiens 2, 8 à 10, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Si le salut est gratuit, pourquoi la femme reçoit cette condition? Pourquoi pas l'homme? Pourquoi l'homme n'est pas soumis, lui, à une telle condition? Qu'est-ce que cela sous-entend? Cela paraît être comme une différence entre l'homme et la femme. Mais la parole nous dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Voilà, ça c'est une question que les féministes vont soutenir. Ok, donc nous rappelons comme c'est écrit dans Galates 3, au verset 28 à 29, donc on va lire Galates 3, Galates 3, 28 à 29. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, nous avons fait tout un séminaire sur la parole de Dieu et nous avons parlé aussi de l'interprétation de la parole de Dieu. Et une des règles que nous avons données, c'était de pouvoir utiliser des versets clairs pour expliquer les versets entre guillemets difficiles ou bien qui peuvent prêter à plusieurs compréhensions. Donc on utilise des versets qui n'ont aucune autre interprétation que ce qui est écrit. Hein. C'est tellement c'est simple. Admettons qu'on dise il y avait du pain sur la table. Bon, je ne crois pas que quelque chose de ce genre-là peut produire plusieurs interprétations. Parce que là, si on a plusieurs interprétations, là, c'est un problème. Donc, quand on dit il y a du pain sur la table, il y a du pain sur la table. Alors, donc, on va utiliser des versets qui sont très clairs pour expliquer les versets qui peuvent porter, qui peuvent donner l'impression d'avoir des interprétations compliquées. Et donc, Galates 3, 28-29 est très, très clair. Donc, il n'y a plus ni homme, ni femme. Donc, tous, nous sommes un en Christ. Ça veut dire que devant Dieu, c'est la même chose. Donc, pour s'approcher de Dieu, nous avons à faire la même chose. Et c'est quoi? C'est ce qui est écrit dans Éphésiens 2, 8 à 10. Nous sommes sauvés gratuitement. C'est par grâce, par le moyen de la foi. Donc nous tous, pour nous approcher de Dieu, nous passons par la foi. Lorsque nous croyons en lui, nous pouvons recevoir le salut de Dieu, que ce soit homme, femme, juif, grec, voilà, esclave, comme autrefois il y avait des esclaves, esclave, homme, libre, c'est la même chose, toute race devant Dieu. Donc en ce qui concerne le fait d'être sauvé. Donc déjà, ça nous ce passage-là nous élimine la pensée selon laquelle la femme aurait une autre procédure de salut que l'homme. Donc c'est la même procédure de salut, c'est la foi. Maintenant, alors, qu'est-ce que sous-entend, voilà la question, qu'est-ce que cela sous-entend? Pourquoi on dit la femme sera sauvée en devenant mère? Nous revenons dans la logique de la foi et des œuvres. Les œuvres, c'est quoi? C'est les actes que nous commettons, donc les actes que nous produisons. Et il est écrit clairement, nous sommes sauvés, dans Éphésiens 2, 8, 10, toujours, nous sommes sauvés par la foi, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres, c'est-à-dire ce n'est point à cause des actes que nous produirions, mais c'est à cause de la foi que nous avons dans le Seigneur que nous sommes sauvés. C'est ainsi afin que personne ne se glorifie. Et donc, cette thèse apportée par Paul sous la prédication de Jésus, parce que c'est Jésus qui a prêché à Paul tout ça, et Paul a expliqué ça aux chrétiens. Quelque chose que Jésus avait déjà dit de son vivant, mais que les apôtres directs de Jésus n'avaient pas saisi à 100%. Voilà, Paul est venu vraiment appuyer là-dessus pour dire nous sommes sauvés par la foi. Celui qui croit, Jésus le dit dès Jean chapitre 3, celui qui croit est sauvé. Donc c'est clair que pour être sauvé, c'est par la foi et non, ce n'est pas par les œuvres. Donc Paul vient appuyer fortement là-dessus. Donc il s'est fait que certains ont mal interprété ce que Paul voulait dire. Et ils ont commencé, comme aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements religieux qui sont dans cette logique-là, ils ont commencé à vivre dans le péché, à vivre comme les païens, en disant le salut est gratos, est gratuit. Donc, comme le salut est gratuit, bon, donc je vais commettre le péché, de toute façon, on n'est pas sauvé par les œuvres, Dieu, je crois en lui, il va me sauver. Et c'est là que notre frère Jacques a voulu faire une mise au point. Et cette mise au point, elle est faite dans Jacques au chapitre 2. Non pas que Jacques ait trouvé que Paul s'est trompé, non. Jacques veut faire une mise au point pour la bonne compréhension de ce que Paul dit. D'ailleurs, Paul lui-même, il fait cette mise au point dans d'autres écrits, hein, où il explique clairement qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits, on reconnaît le chrétien à travers ce qu'il produit. Donc dans Jacques 2 au chapitre 14, qu'est-ce que nous dit notre frère? Mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous le voyez, c'est par les œuvres que l'homme est justifié et non par la foi seulement. Alors, que veut nous dire notre frère Jacques en ce moment-là? Jacques veut dire ceci, que la foi est là pour nous amener à Christ. Mais quand nous sommes à Christ, nous produisons des œuvres. Donc, de sorte que la foi est intimement liée aux œuvres, mais pas dans le sens de remplacer les œuvres, plutôt dans le sens d'infériorité, mais dans le sens juste d'ordre de venue. Donc, la foi vient avant, ensuite les œuvres. Donc, on ne peut pas dire foi et œuvre sont dans des chambres séparées. Elles sont dans la même chambre. Sauf que c'est la foi qui vient d'abord, les œuvres ensuite. Et les œuvres permettent de reconnaître la foi. C'est ce que dit notre frère Jacques. Il dit, puisque les gens, pour eux, la foi, il suffisait de dire, non, je crois que Dieu existe. Je crois que nous, on connaît des païens, quand ils sont fatigués, ils font, ah, Jésus. Voilà. Donc, pour lui, donc, en ce moment-là, donc, il croit en Jésus parce qu'en baillant, il a dit Jésus, quoi. Voilà. Et donc, Jacques veut dire, mais attendez, donc vous voulez dire que cet homme-là croit en Jésus parce qu'il a baillé en disant Jésus et puis après il fait ce qu'il veut de sa vie. Il dit non, ça n'est pas la vraie foi. Il dit, la vraie foi est liée aux œuvres parce qu'elle en est la preuve. C'est comme le grain. Le grain, on va dire ça, c'est un noyau d'un fruit, admettons, le manguier. Bon, si c'est vrai, personne ne peut changer cela. Mais ça sera... Imaginez maintenant qu'on plante ce noyau-là et que ça produise des avocats. On dira, ben non, ce n'était pas un manguier. Donc, ce noyau-là, en produisant des mangues, en croissant, prouvera bien qu'il était un noyau de mangue. Donc, c'est ce que notre frère Jacques veut dire. Il ne contredit pas Paul quand il dit la foi seulement. Là, il veut parler de la foi donc dans le sens de reconnaître. Reconnaître seulement que Dieu existe, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas dans le sens que ça ne sauve pas. Parce que si tu as fait la vraie reconnaissance de Dieu et que tu t'es humilié, tu t'es confié en lui, forcément, les œuvres le démontreront. Donc c'est lié, tu ne peux pas dire qu'on plante un noyau de manguier et puis ça produit des avocatiers, on continue à persister à dire que c'était un manguier. Non, là il y a un problème. Donc Jacques est intervenu pour dire que la foi se manifeste par des œuvres. Et donc il a pris le plus grand exemple que les deux ont pris, c'est l'exemple d'Abraham. Il est écrit dans Genèse 15 qu'Abraham crut. C'est ça qui a fait qu'il soit sauvé. Parce que c'est ça qui a fait que Dieu le considère comme juste. Donc là, c'est le même verset que Paul avait utilisé pour démontrer que finalement c'est la foi qui sauve. Et Jacques dit, d'accord, mais comment on a su vraiment qu'Abraham a cru? Lorsqu'il a accepté de sacrifier son fils pour Dieu. Lorsqu'il a accepté de quitter sa terre natale. C'est comme ça qu'on a su. Puisque comment on saurait, comment ça se serait su? C'est parce qu'on a vu les actes d'Abraham qui correspondaient à quelqu'un qui a cru. Donc Jacques ne veut pas dire qu'on est sauvé par les œuvres, mais il veut dire tout simplement que la vraie foi se traduit par les œuvres comme un noyau, un grain d'un arbre produira cet arbre-là. Voilà, c'est la même chose. Donc c'est cela. Et c'est pour nous dire que si nous sommes vraiment des vrais chrétiens, cela se manifestera par des actes agréables à Dieu. Voilà. Donc il n'y a pas contradiction entre Jacques et Paul. Mais c'est Jacques fait une mise au point parce que certains n'ont pas voulu comprendre la profondeur de ce que disait Paul. Paul expliquait tout simplement que quelqu'un qui est mauvais, il ne peut pas commencer à faire des bonnes choses et que ces bonnes choses satisfassent Dieu. Non, il ne peut pas. Parce qu'en lui, il y a le mal, il continuera à faire des mauvaises choses, même s'il fait quelques bonnes choses. Donc, il ne peut pas être sauvé par les bonnes choses, parce qu'il n'en fera jamais assez pour satisfaire Dieu. C'est pourquoi Dieu a trouvé un autre moyen pour nous sauver, c'est que son Fils a fait les bonnes choses à notre place, et son Fils est mort pour les péchés que nous avons commis, afin que nous, en croyant en son Fils, nous soyons sauvés. Et si vraiment nous croyons en son Fils, c'est que nous sommes d'accord avec le mode de vie de son Fils. Croire en Jésus, ça ne veut pas dire reconnaître son existence. C'est ce que Jacques dit. Il dit, mais Jacques dit que les démons aussi reconnaissent que Dieu existe. Mais pourtant, il fuit Dieu. Pourtant, il l'aime pas, il tremble. Donc, ce n'est pas la reconnaissance qui suffit. C'est l'acceptation de Dieu. Pas seulement la reconnaissance, mais accepter Dieu. C'est ça la vraie foi. Et forcément, quand on accepte Dieu, notre vie devient comme celle de sa vie à lui. Et donc, nous produirons des fruits qui sont agréables à Dieu. Voilà la mise au point que Jacques est en train de faire. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, même on a vu avec la mort de Whitney Houston, il y a des sites chrétiens qui insistaient sur le fait que la veille, elle chantait « Jesus loves me », Jésus m'aime. Mais oui, mais ce n'est pas parce que tu as chanté Jésus m'aime que tu as la foi, bien-aimé. Donc là, nous revenons à ce que Jacques dit. Ce n'est pas parce que tu as chanté Jésus m'aime la veille de ta mort que tu es sauvé. Non. Donc, il y a un frère qui a fait aussi, qui a contré cet article en disant, mais non, là, nous sommes vraiment dans la logique du salut gratos qui est prêché aujourd'hui, n'importe comment. Donc, les gens mènent leur vie comme ils veulent. Et puis, il suffit qu'ils reconnaissent l'existence de Jésus ou qu'ils disent qu'ils aiment Jésus et qu'ils sont sauvés. Non, Jacques dit non. Si on est vraiment de Dieu, cela se démontrera par les œuvres. Le fruit sera là. Mais il est clair que pour que nous soyons écrits dans le livre de vie, ce ne sont pas ces œuvres-là qui vont nous mettre dans le livre de vie, c'est lorsque nous avons cru en Dieu, nous avons accepté, Dieu nous met dans son livre de vie. Maintenant, si on l'a fait réellement, cela se montrera par les œuvres. Donc si on l'a fait réellement, si on ne l'a pas fait réellement, on verra aussi que nos œuvres traduiront un manque de continuité. Et donc, je reviens à notre sujet. Donc, quand Paul dit « la femme sera sauvée en devenant mère », ça veut dire tout simplement que quand la femme est en Christ, elle est sauvée en devenant Christ, elle retrouve vraiment sa qualité de femme et une vraie femme a été destinée à avoir un cœur de maman. Voilà. Donc, elle retrouve vraiment cela. Elle commence à aimer les enfants. Moi, il y a des femmes qui n'aiment pas les enfants. Donc, il y a un problème. Donc, quand elles entendent, vous êtes dans, moi, quand on est avec notre bébé à Carrefour, dès qu'il crie, il y a des femmes qui regardent en colère. Moi, je dis, mais c'est que c'est. Voilà, donc, c'est des gens qui ne sont pas encore sauvés. Donc, elles n'ont pas. Voilà, il y a un problème. Et il y a. La nature de maman n'est pas là. Donc, la femme a été destinée à être mère. Et si elle ne l'est pas physiquement, du moins dans son attitude, dans sa façon d'être, elle le sera quand même. Et très tôt, nous qui avons eu des sœurs, très tôt, vous allez voir nos sœurs déjà à l'âge de 11 ans, 12 ans, ben, elles savaient cuisiner, elles savaient s'occuper de prendre la charge. Nous, on ne savait pas comment on allait manger. Elles savaient. Donc, on leur donnait l'argent parfois pour faire certaines choses. Donc, elles étaient petites. Mais elles avaient une attitude qui ressemble à une maman. Mais ce n'est pas. C'est ce que Paul veut dire. Paul veut dire que si une femme vraiment est en Christ, elle va revêtir cette attitude-là de maman. D'ailleurs, on retrouve encore, toujours dans Timothée, il est en train de dire aux femmes qui sont âgées, à Timothée, de considérer les femmes qui sont âgées comme des mères. Donc, les femmes âgées qui sont dans l'église comme des mères. Donc, elles doivent manifester une attitude de mère. C'est ça qui montre leur transformation. En quelque sorte, c'est la partie qui suit la foi. Et donc, voilà mon intervention. Je laisse la place aux questions. On dirait qu'il n'y a que les femmes. OK.
Non, moi, je pose pas par rapport aux femmes. Je pose par rapport à...
À Jacques.
Non. Une personne, parce que par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, on n'est pas sauvé par les œuvres. Et donc, ça marche ensemble, les œuvres et la foi. Et la personne qui est malade, qui est à l'hôpital, qui n'a jamais entendu parler de Dieu, qu'on lui parle de Dieu à ce moment-là, peut-être ces derniers moments, il ne peut pas faire des œuvres.
Oui, c'est comme le voleur à la croix. Donc, il a cru, après il est parti au ciel. Ça, Dieu seul sait. Nous, on sait comment on sait pour le voleur à la croix, parce que Dieu le lui a dit à l'instant même, Jésus lui a dit à l'instant même, tu seras avec moi au paradis. Donc on a su que sa conversion, sa foi était véritable. On a su. Donc le monsieur qui est à l'hôpital, la femme qui est à l'hôpital, à qui on prêche la parole, et qui disent clairement, je regrette mes péchés, je regrette ma vie ancienne, et je veux vivre comme Jésus. Cette personne qui meurt, elle va au ciel parce qu'elle regrette. Donc, elle veut plus. Donc, le mode de vie charnel, elle n'en veut plus, cette personne. Mais juste parce que quelqu'un dit Jésus m'aime, on ne peut pas savoir. Voilà, donc il faut qu'il y ait une attitude qui manifeste la répulsion par rapport aux œuvres mortes et l'amour par rapport aux œuvres célestes. C'est ça. Maintenant, si la personne ne meurt pas, forcément nous verrons les fruits. Mais si la personne meurt, bon, ça c'est dans le secret entre elle et Dieu.
D'accord.
Voilà. On a l'exemple du voleur à la croix, oui. Ce n'est pas allumé. Hein. C'est toujours pas allumé.
Moi, je n'ai pas très bien compris, en fait, par rapport au fait qu'elle revêtent la nature de mère quand elles viennent en Christ. Parce que dans le monde, il y a des femmes qui ont ce cœur de mère, quoi.
Oui, mais ce n'est pas totalement. Parce qu'il y a plus. Il ne faut pas confondre le côté objet où certaines femmes, leurs enfants sont comme des poupées, comme des objets qu'on va utiliser pour réaliser des projets qu'on n'a pas pu réaliser soi-même, ou c'est les enfants sont comme une vitrine qui montre ce qu'elle est elle-même. Voilà, donc elle fait en sorte, donc elle couvre les enfants. Ça, ce n'est pas forcément de l'amour, ce n'est pas forcément de l'attitude de mère. Ça peut être quelque chose du genre manifesté, comme certains, ils couvrent leur voiture ou leur maison. Ce n'est pas forcément l'attitude de mère telle que Dieu l'a voulu bibliquement. Quelque chose qui produit la vie, où tu formes l'enfant, tu prépares l'enfant à produire la vie, tu produis la vie dans l'enfant. Donc ce n'est pas. Donc nous, on a eu nos mères quand ils n'étaient pas convertis. Elles nous disaient, par exemple, elles nous donnent quelque chose. Elles nous demandent de ne pas donner au fils de son mari, hein, qui l'a eu avec une autre femme. Tu donnes. Oh, pourtant c'est mon frère, par exemple. Mais la maman dit, tu ne donnes pas à ton propre frère. Vous voyez comment c'est que ce n'est pas forcément une attitude de mère. C'est une attitude de mère juste pour ses enfants. Ce n'est pas une transformation intégrale de la femme qui va entrer dans une attitude de mère partout où elle est et avec tout le monde. Voilà, ce n'est pas ça. Donc c'est une attitude de possession. Je possède des objets, je m'en occupe. Mes enfants sont à moi, je m'en occupe. Voilà.
Mais dans le monde, il y en a quand même qui ne sont pas égoïstes, qui aiment leur enfant pour de vrai, non? Parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas convertis, on ne peut pas dire que toutes les femmes dans le monde sont égoïstes à ce moment-là. Ça fait...
Mais non, non, je voulais dire que ce n'est pas suffisant que par rapport, quand tu manifestes ce genre d'amour par rapport à tes enfants, ce n'est pas suffisant pour prouver qu'on a une attitude de mère. Cette attitude de mère, nous devrions l'avoir comme une production partout et avec tous les enfants, partout où on est, voilà. Partout on est et la deuxième chose, on n'a pas dit que la question telle que tu l'as posée, nous pouvons aussi la transposer à autre chose, dire que dans le monde il y a par exemple des gens qui ne fument pas, mais ça ne fait pas d'eux des gens qui sont agréables à Dieu. Donc on n'est pas sauvé par les œuvres. Voilà, on n'est pas sauvé par les œuvres. Donc, il y a des femmes qui peuvent être gentilles, bonnes, même envers beaucoup d'autres personnes, mais ce n'est pas ça qui sauve. Ce que nous voulons dire, c'est que quand nous croyons au Seigneur, nous sommes sauvés et il nous transforme. 2 Corinthiens 5, 17, nous devenons une nouvelle création et nous commençons à produire le but initial de Dieu. Souvenons-nous de la définition du péché. La définition la plus courante du péché, c'est quoi? C'est rater la cible, rater l'objectif. Donc, en quelque sorte, quand nous croyons en Christ, nous revenons dans l'objectif. Donc nous devons accomplir l'objectif de Dieu qui était que, vous savez, Ève, ça veut dire quoi? Pardon? Ça veut dire mère. Voilà. Ok. Donc, elle produit la vie. Elle produit la vie et donc c'est ça que nous voulions dire oui.
Est-ce que, alors, comme tu dis, en fait, que si, par exemple, une femme se convertit, elle est censée atteindre ça comme comportement, en fait.
Voilà. Donc, c'est comme Jacques dit que la foi se démontre par les œuvres.
Donc, est-ce que ça, ce serait, par exemple, on peut dire pour une femme, comme une sorte de thermomètre, en fait, pour voir que si elle n'a pas ce cœur-là, c'est quelque chose ne va pas, en fait.
Oui, quelque chose ne va pas, effectivement.
D'accord.
Dans sa relation avec Dieu.
Moi, je reviens sur la question de la... de Tata Bernadette. Il vous a posé une question en disant, si quelqu'un est à l'hôpital, vous avez répondu en donnant l'exemple de le voler à la croix. Ma question c'est quoi? Si il suffit de croire seulement en Jésus et on est sauvé, quoi sera la repentance? Par exemple, le monsieur qui était à la croix, la Bible ne dit pas qu'il a dit « Jésus, pardonne mes péchés ».
Ah, si, il a reconnu ses péchés.
Il a reconnu, mais il n'a pas demandé pardon.
Même en quelque sorte, en implorant la grâce de Jésus, il a demandé pardon. Parce qu'il a reconnu ses péchés. Il ne faut pas seulement sortir le mot pardon. Nulle part, Zachée demande pardon. Tu te souviens de l'histoire de Zachée, non? Oui. Il ne dit pas pardon. Il dit ce que j'ai fait de mal, c'est les choses que j'ai volées, je vais restituer.
Alors, voilà. Ça veut dire qu'il suffit de reconnaître, même si on n'a pas dit pardon, et c'est tout, on est pardonné.
Non, mais il y a plusieurs façons de dire pardon. Donc, pour dire pardon, on n'est pas obligé de dire seulement pardon. On peut dire je regrette ce que j'ai fait aussi.
Et on est pardonné.
Ah oui, devant Dieu, oui. Oui. Si, c'est, parce que l'intérêt de Dieu, de dire le mot pardon, c'est de dire ceci. En quelque sorte, ça veut dire quoi, pardon? J'ai mal fait, toi qui as la justice entre tes mains, exonère-moi. Enlève de moi la condamnation. Le voleur a dit, nous avons fait le mal. Seigneur Jésus, sauve-moi. Quand tu viendras, souviens-toi de moi. Donc c'est ça. Donc il y a le côté reconnaître le mal, il y a le côté reconnaître que celui-là, il est le juge qui peut m'innocenter. Voilà, donc innocente moi, et il a été innocenté. Voilà. Ok. Donc voilà, oui. Donc voilà un peu quand on dit qu'elle sera sauvée en devenant mère, en persévérant, c'est comme si on disait aussi à l'homme, il sera sauvé en devenant père, en se comportant comme un homme, comme un père. Voilà, donc c'est comme si on disait cela pour l'homme. Donc c'est pareil pour toutes les œuvres, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, doit produire. On est sauvé en manifestant la nature de Christ. Ce n'est pas en reconnaissant juste que Dieu existe, Jésus sauve. Donc on croit, mais si on est vivant et qu'on a réellement cru, nous manifesterons la nature de Christ. Autrement, on se pose des questions sur notre salut. Donc c'est comme une chenille qui est devenue papillon, mais qui n'arrive toujours pas à voler. Bon. Donc on va se poser la question si c'est vraiment un vrai papillon. Donc c'est ça le lien. Donc ce n'est pas que il y a une condition supplémentaire pour la femme, c'est juste que c'est une conséquence liée au salut et concernant la femme. Et l'homme aussi, il y a des conséquences. Quand nous faisons les réunions d'hommes, nous appelons les hommes à entrer dans leur responsabilité de chef de famille. Beaucoup d'hommes ont démissionné. Donc notre travail dans nos réunions d'hommes, c'est leur dire d'arrêter avec la démission, de revenir dans leur travail de chef de famille, de ceux qui se sacrifient pour leurs femmes. Voilà, donc c'est ça. Donc nous vérifions cela pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour la femme. L'apôtre Paul a souligné un détail de ce qui est comme conséquence du salut de la femme, mais tout le monde a des détails aussi. Oui.
Pasteur, ça n'a rien à voir avec ça. Je voulais poser la question, quelle relation Isaac il avait avec son père Abraham?
Quelle relation? C'était son fils?
Oui, c'était son fils. Après, quand son père voulait le sacrifier à un holocauste, voilà, par la demande de Dieu, et lui, comme il avait posé son père la question, voilà, et là on va aller pour faire le sacrifice et puis il n'y a pas l'agneau. Son père lui a dit que non, le Seigneur pourvoira et tout. Et quand son père lui avait, voilà...
Oui, quand après... Donc tu veux dire quand ça a loupé.
Quand ça a loupé, mort, voilà.
Donc comment ils avaient, quelle était leur relation?
Voilà, quelle était...
Une très bonne relation d'amour.
Il avait compris son père.
Il avait compris, oui, il avait compris.
Parce que c'était comme un point d'interrogation dans mon cœur. Je me disais, mais peut-être l'enfant... Il avait un petit peu la colère.
Non, il a compris. Vous savez, quand ça passe, ça passe. Nous, quand on était à l'école, on était parfois... Vous êtes en troisième, il y a un prof qui n'est pas bon. Vous dites, dès que je vais passer de classe, quand je vais les rencontrer en chemin, je vais l'injurier. Mais tu passes de classe, tu oublies. Que tu commences à même te rappeler, ah bon, c'est grâce à un tel que je connais bien les maths. Voilà. Alors que quand vous étiez dans la même classe, c'était des calculs. Dès que l'année scolaire va passer, donc c'est clair que je passe, je le vois en chemin, il va me sentir. Mais quand c'est passé, on oublie. Hein, on oublie.
Ce que Dieu avait préparé son cœur aussi.
Oui.
Il avait apaisé son cœur aussi.
Oui, mais quand la fin est heureuse, quand même la fin est heureuse, puisque Isaac donc, n'a pas été tué, après il hérite de tous les biens d'Abraham, on lui trouve une femme, tout ça, mais c'est ça. Après on ne va pas insister sur un fait qui est reconnu comme étant une obéissance à Dieu aussi. Parce qu'Isaac a pris le même Dieu qu'Abraham.
Mais parce qu'Isaac aussi pouvait dire que non, mon papa, il avait pas l'amour, comment il voulait me tuer, voilà quoi.
Si. Non, mais il a eu les explications. C'est le même sacrifice que les parents chrétiens peuvent faire encore aujourd'hui. Les enfants, au début, ne comprennent pas. Mais plus tard, quand ils vont voir les bienfaits, ils vont comprendre. Oui. Tu peux parler un peu plus fort.
J'ai une question, mais qui est un peu hors sujet. C'est par rapport à Jésus. D'accord. Une question un peu hors sujet, mais c'est par rapport à Jésus. Des fois, je me pose la question, j'essaie de me répondre, mais j'ai fini par avoir mal à la tête. C'est quoi la question? La Bible nous parle de Saul qui est devenu Paul lorsqu'il a rencontré Jésus. La Bible nous parle d'Abraham qui est devenu Abraham. La Bible aussi nous parle que Jésus, parce qu'il a obéi son Père, il a bien exhorté et il a donné le nom au-dessus de tout nom. Je me demande, c'est quoi comme nom Dieu l'a donné? C'est Jésus. Avant qu'il était mort, il était qui? Il était Jésus. J'essaie, des fois je me réponds, je me dis, je ne sais pas en fait, je voudrais...
Tu savoir. Cherches ce nom-là, ou bien tu le sais que c'est Jésus ce nom-là?
Oui, c'est Jésus, mais la Bible dit, parce qu'il a obéi à son Père, il a accepté de mourir, pas seulement mourir, la mort de la croix, c'est pour ça que son Père lui a donné le nom au-dessus
de tout nom.
C'est quoi le nom que son Père lui a donné? C'est Jésus. Avant qu'il soit mort, il était qui? Il était Jésus.
Non, c'est que chez les Hébreux, le nom, ce n'est pas seulement le mot-là qu'on utilise pour t'appeler. Le nom, c'est quelque chose qui rassemble un titre, ça rassemble un avenir, ça rassemble, il y a aussi dans le nom l'autorité. Voilà, donc au début, l'autorité de ce nom-là se limitait au salut des humains. Donc Yahvé sauve, donc l'Éternel sauve. C'est ce que ça veut dire Jésus. Donc Dieu, l'Éternel, vient sauver. C'était lié à cette mission-là de sauver les humains. Après la mort et la résurrection de Jésus, le nom de Jésus est devenu le nom d'autorité devant de qui tout genou fléchit. Donc c'est pourquoi, lorsque nous demandons les choses, on dit au nom de Jésus. C'est pourquoi, quand nous citons le nom de Jésus devant les autorités angéliques ou démoniaques, ils sont obligés de se soumettre parce que Dieu a maintenant fixé ce nom-là au-dessus de tout nom. Alors que, souviens-toi, quand Jésus était physiquement sur terre, les apôtres n'adoraient pas Jésus. Donc, ils ne le faisaient pas. Ils ne faisaient pas des prières, Jésus, à genoux, en priant. Mais dès qu'il est ressuscité, on voit que Thomas, il s'est agenouillé en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Dès qu'il est ressuscité, on dit dans Luc 24, quand Jésus il est parti, il est monté, les apôtres l'ont adoré. Voilà. Donc là, le nom a revêtu une autorité beaucoup plus grande et on a commencé à l'adorer directement.
Voilà. Ok. Si j'ai bien compris, ça veut dire que l'exaucement de nos prières dans le nom de Jésus est lié à l'autorité que le nom l'a apporté, pas au côté salut qu'il avait depuis le départ.
C'est ensemble, puisque le nom l'a a eu cette autorité-là par le fait que Jésus-Christ a été crucifié à la croix. C'est à cause de ça que Dieu a mis son nom au-dessus de tout nom.
Non, moi, je demande, vous avez dit, comment dire,
Non, si nous sommes pardonnés, c'est à cause du sacrifice de Jésus.
Oui,
si nous demandons, voilà, justement, si nous faisons des prières, c'est parce que Dieu sait que Jésus-Christ est notre représentant et il nous demande, quand on dit au nom de Jésus, Dieu ne peut rien lui refuser. Parce qu'il lui a obéi parfaitement à Dieu. On ne refuse rien à quelqu'un d'obéissant. Donc Dieu ne peut pas lui refuser quelque chose. Mais dans nos chants, nous chantons Jésus, ce qui n'était pas possible avant. Donc nous commençons à l'adorer et nous commençons, dans notre fonctionnement à mettre ce nom-là au-dessus de tout, au-dessus de tout autre nom. Et c'est que ça a revêtu une autorité plus grande. Voilà, c'est ça. Ah ben, je ne sais pas. Il leur a dit, allez chasser. Probablement, ils citaient Jésus, probablement. Oui, c'est ce que j'ai dit. Probablement, c'est une possibilité. Moi, on n'a pas vécu leur délivrance ou leur guérison. Mais est-il qu'après, les exemples qu'on a, c'est après, dans les actes des apôtres. Où, voilà, les apôtres disent au nom de Jésus. Voilà. Mais les exemples d'avant... On n'a pas un exemple de délivrance que les apôtres eux-mêmes font. Voilà. Oui. Un peu plus fort.
Allô.
Oui, c'est bon.
Si on appelle notre fils Jésus, c'est blasphémé, en fait.
C'est blasphémé, je ne dirais pas ça rapidement, hein, parce que le mot Jésus... existait avant que Jésus soit là aussi.
Bah oui, mais puisque après sa mort, après c'était.
Oui, mais je veux dire qu'un chrétien, ça serait un peu osé d'appeler son fils Jésus quand même. Donc faut éviter. Mais dire qu'il a péché, je ne peux pas m'avancer jusque là. Je veux dire tout simplement que c'est un peu osé. Voilà, on peut se poser des questions. Mais ailleurs, par exemple, si vous allez en Espagne, il y a des gens qui s'appellent Jésus. Voilà, dans certains pays, il y a des gens qui s'appellent Jésus parce que le nom, comme Josué, parce que Jésus et Josué, c'est la même racine, c'est Yehoshua, c'est pratiquement pareil. Donc Jésus, c'est Yeshua, et Josué, c'est Yehoshua, et c'est pratiquement le même mot et le même sens. Voilà, donc ce qui fait qu'en Israël, vous allez trouver des gens qui s'appellent Jésus, mais dans leur langue, Yehoshua. Voilà, donc on ne peut pas dire que c'est un péché en soi, mais je crois qu'un chrétien... vaut mieux éviter de donner à son fils le nom de Jésus.
Non, mais voilà. Si on s'appelle Jésus, c'est-à-dire que celui qui s'appelle Jésus, il se prend pour Jésus.
Non, pas forcément, ce sont ses parents qui lui ont donné ce nom-là. Voilà. Ok.
À propos de Jésus aussi... Ah, pardon. D'accord. Aussi encore à propos de Jésus, mais un peu sur un autre registre. Jésus, je veux dire, son arrivée, elle était prévue et il a toujours été présenté comme l'agneau de Dieu. Et donc, c'est-à-dire qu'il était déjà destiné, entre guillemets, à être sacrifié pour tout le monde.
Oui.
Mais c'est-à-dire qu'avant même qu'il arrive, il était déjà prévu que quelqu'un le tue. Et je veux dire, la personne, donc, par exemple, si c'était pas Judas qui l'avait livré, ça aurait été quelqu'un d'autre. Et je veux dire, dans quelle mesure on peut dire que cette personne-là, elle a été tentée d'être sauvée ou elle a eu sa part de choix, puisqu'avant même que Jésus arrive, il était déjà dit qu'il allait arriver pour être sacrifié et que quelqu'un le livrerait.
Oui, mais il fallait trouver la bonne personne. Donc il fallait trouver la personne qui a ce cœur-là de livrer Jésus. Un cœur mauvais. Donc, quand on veut faire un mauvais coup, on ne va pas aller chercher un bon. On va chercher un mauvais.
Oui, mais je veux dire, cette personne-là déjà, donc Judas, est-ce que quelque part, elle n'était pas non plus, entre guillemets, condamnée déjà ?
Pas du tout. Donc c'est juste qu'il a été choisi pour cela parce qu'il avait un cœur mauvais.
Et il a été choisi par qui ?
Par Dieu.
Oui, mais donc...
Mais ça ne fait pas de lui un homme bon. C'est simple. Par exemple, quelqu'un, un monsieur, on va l'appeler... Jacob, il a l'habitude de tuer dans la cité, dans les cités, il tue. Alors, moi, je vais faire un casse. Quelque part, bon, on va citer la ville, je vais faire un casse à Marseille. Il dit, mais tiens, je connais Jacob. Eh bien, qui a l'habitude de tuer, de bien tenir le Kalachnikov, allez, on y va à Marseille. Donc, vous n'allez pas dire que c'est moi qui ai gâté Jacob. Jacob était déjà comme ça. Mais moi, dans mon coup que je vais faire, j'ai choisi la personne qui peut mieux faire le boulot.
Oui, mais dans ce cas-là, c'est un peu paradoxal, un peu avec la parole et les enseignements que Dieu souhaite transmettre aux personnes. Parce que je veux dire, il prône la vie, le pardon et le respect de l'autre. Et paradoxalement, il choisit quelqu'un pour tuer quelqu'un d'autre. Enfin, même si c'est pour accomplir le destin du Christ, c'est cruel un peu parce que...
Non, il le choisit pour pas... C'est-à-dire, c'est pas qu'il le rend mauvais. Il le choisit parce qu'il faut que Jésus meure. Maintenant, c'est les mauvais qui tueront Jésus. Maintenant, parmi les mauvais, il choisit un. Mais ça ne change pas qu'ils sont mauvais. Ce n'est pas Dieu qui les rend mauvais. Et maintenant, là où je vais te montrer la bonté de Dieu, c'est qu'il permet pendant 3 ans que Judas puisse changer. Donc Judas observe tout ce que Jésus faisait, vit avec Jésus, voit les miracles, voit l'amour de Dieu dans le but de changer. Mais il n'a pas toujours changé. Au fait, Judas a donné raison à Dieu. Parce qu'on lui a donné l'opportunité de changer en vivant à côté de Jésus. Je crois que la plupart d'entre nous, si on nous disait, comment dire, de naître même aveugle, mais de vivre à côté de Jésus, tout le monde dira, je préfère être aveugle et vivre à côté de Jésus. Mais, donc Judas, lui, il a expérimenté ça. Il a vécu à côté du Fils de Dieu, le roi des rois. Il a vu les miracles, la tempête calmée, les morts ressuscités. Mais il n'a pas voulu changer. Donc Dieu a été bon envers Judas, malgré le choix. Donc aujourd'hui, c'est Judas, lui, qui donne raison à Dieu que Dieu a fait un bon choix.
D'accord, merci.
Ok. Ok, c'est bon. Nous continuons. Donc il n'y a plus de problème. S'il y a des féministes au milieu de nous par rapport à sera sauvée en devenant mère, bon, nous passons. Mais toi, tu n'es pas un féministe. Hein, ok. Non, attends, il y a quelqu'un qui a le micro là.
J'ai une question. Est-ce que Jésus il était dans le ventre de Marie, est-ce qu'il se regardait depuis le ciel ou bien il était vraiment par rapport à l'évolution et tout?
Par rapport à l'évolution.
Enfin, quand on devient un fœtus et tout là.
J'ai pas compris.
Quand on devient un fœtus.
Oui.
Oui, est-ce que, enfin, comment dire, Jésus, il était.
Il était Dieu étant fœtus. Il était Dieu.
Est-ce qu'il était dans le ciel et puis il se regardait.
Non, puisqu'il est lui-même Dieu, pourquoi il va se regarder, il est Dieu? Est-ce que, mais voilà, puisque tu es Dieu, tu vas te regarder où? Est-ce que toi, tu te regardes?
Je sais pas.
Là, tel que tu es, tu te regardes pas, tu es toi-même.
Il peut être en chair dans le ventre et puis en esprit en haut.
Non, non. Oh, mais il est écrit dans Colossiens 2:9, en lui, il y avait la plénitude de Dieu. Donc, nous allons lire. Donc, il était Dieu tout en étant fœtus. Colossiens 2:9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité était dans le corps de Jésus. Donc il n'avait pas besoin de se regarder, il était Dieu. Voilà, sa divinité, elle était toujours là. Ok, Bernadette.
C'était pour savoir les jeunes filles qui meurent avant de devenir femmes, leur cas c'est comment?
Mais non, on a bien expliqué que ce n'est pas lié au fait physiquement d'être une femme avec des enfants.
Oui,
c'est lié à la nature. Mais on peut être jeune fille quand on se convertit, on va manifester cette nature-là. Ça n'a rien à voir avec l'âge.
Bon, j'ai peut-être mal posé ma question. Parce qu'il y en a d'autres, quand ils sont jeunes, ils n'aiment pas trop les enfants, ils disent ouais.
Mais s'ils se convertissent, ils vont aimer. Comme il y a beaucoup qui n'aiment pas la nature. Mais dès qu'ils se convertissent, ils commencent à aimer la nature. Voilà.
Moi, je n'aime pas les chiens, je suis converti, je n'aime pas les chiens.
Mais non, mais. Non, ça peut être la peur, donc on va prier pour toi. Non, mais il y a des petits trucs qui peuvent rester comme ça, on lutte. on lutte, on prie pour ça. C'est des quelques petits esprits qu'on va chasser au nom de Jésus. Voilà. Il y a des luttes qui peuvent rester. Donc, comme pour tout homme, donc il y a des luttes qui sont là et qui nous aident à rester humbles aussi. Voilà. OK, nous continuons. Deuxième question qui a été posée. Se marier du vivant de l'ex-conjoint qui est parti sans être dans l'adultère, est-ce que c'est normal? Voilà, donc il y a, la Bible dit que lorsque nous sommes mariés, Dieu ne peut pas séparer cela, et que personne plutôt ne sépare cela, et nous ne pouvons pas nous séparer sauf en cas d'adultère. Et maintenant la question du frère, c'est la personne est partie et il n'y a pas d'adultère, est-ce que l'autre peut se marier? Donc moi je pense que dans ces conditions-là, il faut travailler à la réconciliation. Même parfois quand il y a adultère, on peut toujours travailler à la réconciliation. Le but, ce n'est pas de sauter à la facilité, dire qu'il y a adultère et s'en aller. Nous devons toujours nous souvenir que le péché, c'est rater la cible, rater l'objectif. L'objectif de Dieu, ce n'est pas qu'il y ait séparation, c'est qu'il y ait unité jusqu'au bout. Maintenant, s'il y a mort, là, c'est un autre cas. S'il n'y a pas mort, alors la seule possibilité, c'est que la personne soit considérée comme païenne, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 7, si l'inconverti te quitte, tu n'es pas lié. Mais l'adultère n'autorise en quelque sorte qu'une sorte de séparation physique. Mais ce n'est pas une raison pour aller se marier. Voilà, donc maintenant, pour se marier, il faut qu'on ne soit plus lié. Et donc, le seul cas, c'est que la personne qui s'en va soit déclaré par l'Église comme étant païenne, inconvertie, là, on n'est pas lié. Mais moi, même à ce niveau-là, même si elle est déclarée inconvertie, tout ça, je pense que, d'une manière juridique, bibliquement parlant, on n'est pas lié, c'est vrai, mais souvenons-nous que ce que Dieu veut, ce n'est pas l'accomplissement juridique de la loi, mais c'est l'accomplissement en profondeur de la loi. Donc on doit toujours souhaiter que la parole de Dieu soit pratiquée et vouloir de toutes nos forces cette réconciliation, peu importe ce qu'il y a eu. Maintenant, après, si Dieu lui-même, par les faits concrets, nous sépare, ça c'est clair, nous n'aurons plus que... Et si les procédures de paganisation, donc qui montrent que l'autre est païenne ou païen, sont confirmées, là on n'est pas lié vraiment... Je demanderai à chacun d'examiner vraiment dans son cœur si c'est la volonté de Dieu dans ce moment-là, à ce moment-là, de se marier encore. Mais telle que la question est posée, je pense que la réponse que je peux donner, c'est tout faire, travailler à la réconciliation. Maintenant, si il s'avère que la personne est décrétée païenne, bon, je dis, on... Juridiquement, quand je dis juridiquement, donc si on suit que le texte, bon, on n'est pas lié, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on se marie? Je crois que c'est une réponse personnelle que chacun doit apporter. Ce n'est pas à moi d'apporter ça d'une manière juridique comme ça. Voilà.
Est-ce qu'une femme ou un mari dont son conjoint ou sa conjointe est partie depuis des années et s'est remariée, est-ce qu'elle doit prier pour que...
Qu'il y ait divorce de l'autre côté.
Si elle aime vraiment son mari et que l'autre est...
Ah, si elle aime toujours, ah oui, elle doit prier qu'il y ait divorce.
Ah oui.
Ah ben oui. Pardon? Non, mais parce que le deuxième mariage n'est pas bon. Oui, oui.
Même si le deuxième mariage n'est pas bon, le divorce n'est pas de Dieu. Donc, tu ne peux
parce qu'il
peut
pas
prier
bon.
Pour que quelqu'un divorce alors qu'on sait que ce n'est pas de Dieu de divorcer.
Non, mais puisque ce mariage-là n'est pas bon.
Mais il est marié.
Mais non,
il a quand même honoré.
Mais ça ne compte pas puisqu'il a pris le mari de l'autre.
ils ont divorcé.
Ou bien la femme de l'autre. Hein, bah parce
ils ont divorcé, on c'est-à-dire que la personne
les féministes risquent de m'attaquer
a fait
à la
son
fin.
Choix okay. de partir. D'accord. Les deux, enfin, elle a fait son choix, elle a demandé le divorce, elle est partie et s'est remariée. Le chrétien ne peut pas prier pour le divorce, peut prier pour sa conversion.
Si. Oui. Il prie
mais
pour
c'est pas de Dieu.
Retrouver son mari parce que on l'a, ce n'est pas Dieu qui... Si elle est convaincue que Dieu ne les a pas séparés, donc il prie pour retrouver son mari, mais c'est, prier pour retrouver son mari, c'est quoi? C'est le divorce de l'autre dans l'autre camp. Hein. Ah oui?
Donc.
Oui, oui, donc
et, non, non, moi je ne suis pas d'accord.
Ah,
dans le
ou,
sens
non,
que
je
le
ne
divorce
pas.
N'est pas de Dieu, on ne peut pas prier
mais
pour
non,
que...
Mais plus
même
que...
si la liaison... Enfin...
Le Seigneur a dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Donc, elle ou il s'est retrouvé marié avec l'autre. Maintenant, quelqu'un, par des portes ouvertes, vient casser ça et amener son mari ou sa femme. Donc, l'autre mariage, l'autre, il le premier ne considère ça pas comme un vrai mariage.
Mais si cette personne prie pour le divorce et qu'elle n'a pas pardonné,
ah non
déjà,
comment ça n'a pas pardonné elle considère que c'est toujours son mari.
Souhaiter le mal de quelqu'un, moi je ne sais
mais
pas.
Mais non, mais puisque Jésus pas... dit ceci, voilà, donc tu vas casser le mariage de l'autre, donc tu commets toi-même l'adultère. Donc la personne qui est venue prendre la femme de l'autre est dans l'adultère, en quelque sorte, bibliquement parlant. Donc elle est là, le droit ou il de prier qu'il y ait divorce, puisqu'il y a une relation qui est anormale, parce que la personne continue à être convaincue que ce lien-là est de Dieu. Ce lien, le premier lien est de Dieu. Voilà. Donc c'est cela. Maintenant, voilà, il n'y a pas beaucoup qui ont vraiment ce courage-là. Et moi, je connais une dame qui, son mari avait carrément amené une autre femme dans la maison. Elle a pris une autre chambre, mais elle est restée là. Donc pendant 2 ans, il y a quelqu'un qui a crié. Pendant 2 ans, mais après 2 ans, l'intruse a fini par fuir quoi. Le feu de la prière hein. Peut-être qu'ils se sont mariés, on ne sait pas, mais c'est... moi je dis du moment que il y a eu mariage, donc on considère que c'est Dieu qui a scellé. Maintenant, quand il y a des ordres, on considère que ce n'est pas forcément Dieu. Maintenant, quand c'est de Dieu, on sentira ça, on verra les signes clairs et nets que là vraiment Dieu les a séparés. Et puisque l'autre est parti, est devenu païen et ne veut pas écouter Dieu, il est dans l'apostasie totale. Ça, c'est Dieu qui les a séparés. Tu n'es pas lié. Même dire que tu n'es pas lié, c'est juridique. Mais dans ton cœur, dans ta relation avec Dieu, Dieu peut te dire de continuer à espérer et à retrouver. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit que je ne peux donner qu'une réponse à peu près juridique. Je ne peux pas donner une vraie réponse liée au cas de chacun. Au cas de chacun. Donc chacun verra si vraiment il peut quand même quoi. Et c'est en fonction de sa relation avec le Seigneur. Oui.
Est-ce que
faut rapprocher le micro.
Est-ce que on entend?
On ne t'entend pas bien, voilà.
Alors est-ce que
est-ce qu'on peut augmenter un peu là?
Alors dans la Bible il est marqué que quelqu'un qui que celui qui est séparé
ne se remarie pas.
Voilà, sinon il est considéré comme adultère, c'est ça? Donc si jamais la personne elle se remarie, est-ce que la personne avec... enfin, est-ce que les deux vivent dans l'adultère même si l'autre est parti? Forcément si l'autre est parti, c'est parce qu'à un moment donné la personne n'était plus chrétienne. Mais il y a des gens aussi qui reviennent au Seigneur après un certain nombre d'années d'apostasie, régression.
On va lier les deux. La seule condition de séparation, c'est l'adultère. Mais ce n'est pas un divorce. C'est une séparation. Ça veut dire qu'on n'a plus, en quelque sorte, peut-être à vivre sur le même toit ou bien avoir des contacts physiques. C'est une séparation. Ce n'est pas un divorce. Maintenant, Jésus dit, celui qui décide, puisqu'il a été trompé, de faire cette séparation-là, celui-là qui décide n'a pas à se marier. Voilà.
Sinon, il est dans l'adultère.
Sinon, il vit dans l'adultère. Donc, en quelque sorte, c'est comme si la personne qui l'a trompé reste sa femme ou son mari. D'accord. Voilà. Maintenant, Paul dit... c'est Paul qui rajoute plutôt que celui qui est séparé ne se marie pas. Voilà. Jésus dit, il peut y avoir séparation. Paul rajoute, celui qui se sépare ne se marie pas. Voilà.
La différence entre séparer et divorcer, c'est...
Divorcer, ça veut dire c'est fini, tu n'es plus lié. Alors que séparation, c'est que tu refuses un certain niveau de contact, mais théoriquement, vous êtes toujours unis. Voilà.
Et si jamais les personnes se marient quand même, alors que ils savent pas. Est-ce que, par exemple, vivre... comment je peux dire ça? Les gens, ils se marient quand même, mais ils sont dans l'adultère par rapport à la parole.
Je te comprends, mais
est-ce que ils sont sauvés parce que c'est comme si ils pratiquaient le péché là carrément.
Je pense que c'est l'un des boulots les plus difficiles des pasteurs, quoi. C'est quand ils se retrouvent devant ces choses-là. C'est vraiment, pour moi, l'une des affaires les plus compliquées de mon métier, de mon travail de pasteur, quoi. C'est des cas, je peux dire qu'on peut les gérer qu'au cas par cas. Il n'y a pas vraiment... Donc, examiner chaque chose. Et parfois, Dieu lui-même éloigne, quoi. Parce qu'il sait que tu peux faire une erreur en tant que pasteur. Il va éloigner tout ce qui peut être une erreur que tu es obligé d'accepter parce qu'il y a des faits très forts. Voilà, donc je crois que là, on doit prier que Dieu nous conduise et que sa volonté s'accomplisse d'une manière claire.
Mais quand tu dis le Seigneur éloigne quoi les personnes
Les personnes.
Ah, d'accord.
Si le Seigneur considère que c'est un péché dans son œuvre, il va les éloigner. Okay. Voilà, il va les éloigner. Oui. Parce qu'il y a des cas complexes, par exemple, que une personne s'était séparée dans une autre église d'une mauvaise manière, mais cette église-là avait accepté. Après, ces personnes-là viennent dans votre église. Comment gérer ça? Puisque, comme tu viens de dire là, et ça devient complexe parce qu'on ne sait pas, on n'a pas géré la séparation. Mais si le pasteur lui-même était là pendant que tout ça se passait, il connaît les détails, il sait qui est parti le premier, qu'est-ce qui s'est passé, il sait, donc il assume le choix qu'il fait, par exemple, de prier pour ces gens-là qui se marient. Voilà, parce qu'il connaît les détails. Mais on a connu des cas, mais les gens, tout ça s'était passé ailleurs. Bon, toi, le pasteur, nouveau pasteur, tu ne connais pas exactement. Et tu entends la version de la femme, tu entends ou de l'homme, tu n'entends pas la version de l'autre qui n'est pas dans le coin. Parfois, il y a des déplacements. Moi, je me souviens d'un conseil que j'avais donné à un couple qui était dans ce cas-là et qui, aujourd'hui, n'est plus au milieu de nous. J'avais dit, c'est difficile pour moi de gérer ça parce que la femme, après avoir écouté les enseignements, était quand même déstabilisée. J'ai dit, c'est pour moi difficile de vous dire de vous séparer ou que j'approuve forcément votre union puisque je ne l'ai pas gérée. Donc, tu étais ailleurs, dans une autre ville, et dans une autre église. C'est un peu complexe pour moi, j'avoue mon insuffisance. Ce que je vous donnerai comme quand même instruction ou bien conseil, c'est de ne pas aller dans la ville où tu as vécu, l'ancienne ville. Voilà. Pour éviter une sorte de mauvais témoignage. Voilà. Oui.
Pasteur, là, j'ai vu...
Micro, s'il te...
J'ai vu dans Deutéronome 24, verset 1, c'est marqué « Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle
une lettre de divorce.
Voilà. Et après là, lui avait remise en main et il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme.
Oui, mais Jésus répond à ça là. On va lire Matthieu 19. Matthieu 19, verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il commandé de donner à la femme un acte de divorce et de la répudier? Il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. Voilà. Jésus a replacé les choses par rapport à la volonté initiale de Dieu.
Mais dans la vie actuelle, aujourd'hui, si une femme se sépare avec son mari, ou soit, bon, entre guillemets, un mariage coutumier, c'était pas présenté à la mairie ni à l'église, et il y a une lettre de séparation, parce que comme la famille,
okay.
La famille était mêlée, mais... Si
tu peux parler plus fort. Hein.
S'il y a une lettre de séparation par rapport à ça, c'est...
Non, moi je dis que c'est au cas par cas. Nous ne pouvons pas répondre d'une manière totale à cette question-là. La règle est la suivante, Dieu ne veut pas de séparation. Ça, c'est la règle. Dieu ne veut pas de séparation. Maintenant, il y a quelques cas, comme la mort, où on n'est plus lié, comme le fait que celui qui quitte le foyer n'est pas chrétien. Donc, c'est les deux cas où on n'est pas lié. Donc, on peut faire sa vie. Donc, le chrétien ne peut pas quitter le païen parce que lui n'a pas ce droit-là. Donc, mais par contre, quand le païen quitte le chrétien n'est pas lié. Donc, il peut faire ça, se marier, voilà, puisqu'il n'est pas lié.
Et puis, si c'est les païens qui mettent la femme chrétienne à la porte.
Mais c'est ça, non? Il quitte, non?
Mais c'est... tu quittes.
Donc, c'est le païen qui a quitté.
Non, les païens restent.
Mais
à la
c'est
maison.
La même chose, mais puisqu'il a mis à la porte, donc c'est lui qui a quitté, qui a rompu. D'accord. Voilà. Ah. Ok. Oui. Donc
est-ce
c'est
que,
bon.
Non, excusez-moi, pasteur. Est-ce que le mariage juste et coutumier, c'est considéré comme marié devant Dieu?
Oui et non. Parce que dans les coutumes, tu pouvais épouser parfois deux ou trois femmes. Voilà. Donc oui et non. C'est pourquoi j'ai dit c'est au cas par cas. Donc il y a des gens qui ont voulu tailler parce que, ah, mais non, c'était coutumier. Non, mais c'était coutumier, mais c'était officiel dans la société. Ce n'est pas un problème de papier, c'est un problème de société. La société avait reconnu ça, vous viviez ensemble, vous étiez mariés. Donc, dans la société, on vous considérait comme mariés. Donc, il y a des gens aussi qui ont voulu s'accrocher au coutumier. On a dit, mais non, ça n'a aucune valeur à cause de telle chose. Donc, je dis que c'est la règle est la suivante. Le mariage, c'est un fait social que... Nous reconnaissons parce que la société déjà a reconnu cela. Maintenant, les pasteurs ont le boulot difficile de gérer les cas compliqués et ça demande l'aide de Dieu.
Voilà. Mais comme par rapport à la loi, ici en France, c'est pas le mariage coutumier, c'est pas reconnu.
Oui, mais ça, c'est pas la société, c'est pas que la France. Voilà. C'est... Bref, je crois qu'il y a des cas où c'est aux autorités d'en juger au cas par cas, quoi.
Alors, quand deux chrétiens se sont mariés dans le Seigneur et qu'il y en a un des deux, la foi baisse et en fait, il retourne dans le monde et divorce, demande le divorce et va chercher une autre personne. Alors, comment ça se passe pour la personne qui est restée
oui,
et
c'est
qui veut
ce
pas
que
le divorce.
J'appelle le processus de paganisation. En ce moment-là, il y a tout un travail donc dans Matthieu 18, on va voir la personne, donc on essaie d'exhorter la personne à revenir à des meilleurs sentiments, seul à seul, par son conjoint, avec son conjoint, et après, avec des témoins, et ainsi de suite. Si la personne maintient sa position, on la considère comme païenne. Donc et ça rejoint le cas d'un païen qui te quitte. Mais il faut dire aussi, dans 1 Jean 2, 18 à 19, il nous est dit que certains qui étaient au milieu de nous, ils n'étaient pas des nôtres. Mais ils nous ont quittés afin que cela soit manifeste qu'ils n'étaient pas chrétiens. Donc il y a des gens aussi qui se sont mariés alors que l'un n'est pas chrétien en réalité, mais il venait à l'église. Voilà. Maintenant, avec le temps, sa vraie nature va se manifester qu'il n'était pas chrétien. Voilà. Et les cheveux ont poussé. Et voilà quoi.
Oui, mais pour celui qui est chrétien, lui, il est libre. Donc.
Mais c'est ce que je veux dire. Voilà. Mais tout ça demande un suivi, qu'on suive l'affaire et que cela soit démontré qu'il y a eu vraiment départ de l'autre et il y a eu refus de l'autre de revenir à Dieu. Donc il faut que tout cela soit montré.
Et les enfants et tout ça, parce que pour les enfants, c'est un dégât.
Ah mais ça, c'est...
S'ils ont des enfants ensemble.
Mais qu'est-ce que nous, on peut faire par rapport à ça?
Mais quel est...
On ne peut pas les obliger à rester ensemble.
Non. Mais voilà. Pour les enfants, est-ce qu'il y a...
Mais oui, ce que tu dis là, c'est un dégât, donc c'est pourquoi il ne faut pas se séparer.
D'accord.
C'est pourquoi il ne faut pas se séparer. Oui, oui.
Oui, quelle est la valeur devant Dieu du mariage civil? Moi, j'étais marié deux fois à la mairie, je n'ai jamais été marié à l'église. Puis j'ai divorcé deux fois aussi.
Devant Dieu, si on est chrétien.
Mais je n'étais pas chrétien.
Toi, tu n'étais pas chrétien. Mais si on est chrétien, dès qu'on est marié en civil, donc on est marié. Oui. L'Église ne vient que bénir, quoi. Comme on prie pour tout ce qu'on fait. Il y a des gens, dès qu'ils ont acheté une nouvelle voiture, le pasteur doit prier, tout ça. Donc voilà, c'est. Donc on prie aussi pour le mariage parce que c'est quand même une institution divine. Donc quoi qu'elle a été établie à la mairie, parce que c'est les autorités établies dans le pays, nous, on vient prier et on reconnaît cela.
Mais alors, le fait d'avoir été païen et marié plusieurs fois, enfin moins deux fois, est-ce qu'il y a un remariage possible? Comment dire?
Oui, mais la Bible dit dans Actes 17, Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Ouais. Donc là, tout ça s'est fait alors que vous étiez ignorant. Ouais. Aujourd'hui, une nouvelle vie commence. Voilà.
Parce qu'il est dit aussi à un endroit que les évêques et les diacres soient mariés d'une seule femme aussi.
Donc, oui, ça veut dire qu'on laisse la possibilité aux autres d'en avoir plusieurs. Je vais expliquer parce qu'un faux évangéliste avait utilisé ce verset pour avoir une sœur. Et la sœur, en réalité, peut-être qu'elle-même, voilà. Et tout le monde profite d'un verset flou. Allez! On s'enfonce. Mais non, c'est qu'il faut comprendre le contexte. Nous sommes dans un contexte où le christianisme entre au milieu de peuples où parfois il y a la polygamie. Et donc, un homme a déjà trois femmes. Il se convertit. En ce moment-là, il y a un travail à faire pour... Normalement, naturellement, celles qui sont venues après doivent lâcher. Voilà. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Voilà. Il y a parfois... des cas où la première n'était pas, c'était juste peut-être quelque chose, un amusement, et il y a eu des enfants. Bon, est-ce qu'on doit l'appeler vraiment la première? C'est parfois compliqué. Et dans cette complication-là, je dis bien, il y a des cas qui sont très simples où celles qui sont venues après, on dit directement à la personne, elles doivent partir. Et la personne leur dit, écoutez, moi je suis devenu chrétien, vous devez vous en aller, je reste avec la première. Et il y a d'autres cas qui sont beaucoup plus compliqués que cela. Et le temps de les gérer, une telle personne ne peut pas être diacre. Voilà. Donc, je crois que Paul a donné cette instruction dans ce sens-là, quoi, qu'ils soient mariés d'une seule femme, parce que l'Évangile est entré dans des contextes où, bon, on a rencontré des gens, ils étaient polygames, ils avaient plusieurs femmes, on ne peut pas venir directement dire, allez, avec un fouet, on chasse les autres femmes. Et, donc, il y a un processus. Et pendant ce processus-là, un tel homme ne devait pas être diacre, quoi, ni évêque. Voilà. Ok, nous continuons. Une autre question a été posée. Est-ce qu'on peut regarder les choses que l'on veut dans une motivation de culture personnelle? La réponse, donc je répète la question, est-ce qu'on peut regarder les choses que l'on veut dans une motivation de culture personnelle? Donc je vais donner la réponse en utilisant un verset, 1 Corinthiens 6, il est écrit au verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'inconduite, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Alors, je crois que vous avez compris un peu ce que Paul a voulu mettre dans le christianisme au milieu des Juifs. Mettre, pas mettre, donc confirmer, parce que c'est Jésus qui a amené tout ça. Paul a voulu confirmer une notion importante, c'est que la relation avec Dieu, c'est lié au cœur en premier. Il a insisté là-dessus. Ce n'est pas une histoire de code pénal ou de code civil. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il faut faire ceci, il faut faire cela. Paul a voulu insister sur ça, ce qui est une vérité. C'est lié à quelque chose, c'est lié au cœur. Donc on a plusieurs exemples dans la vie de Jésus, dans les événements qui ont jalonné la vie de Jésus, qui montrent cela. Vous vous souvenez de deux personnes qui priaient devant le temple. Il y avait un pharisien, il y avait un péager, donc un collecteur d'impôts, censé être corrompu. Et le pharisien disait, « Seigneur, regarde-moi, je ne suis pas comme celui qui est mon voisin, qui est un pécheur, moi. Je suis quelqu'un qui t'aime, je jeûne deux fois par semaine, j'accomplis, je donne ma dîme, ceci, cela. » Et il y a le péager qui ne regardait même pas le ciel, il inclinait sa tête pour dire, « Seigneur, je ne suis pas digne de toi, aie pitié de moi. » Et Jésus a dit, c'est le deuxième, c'est le péager qui a été justifié. Ce n'est pas le religieux pharisien qui était fort dans l'accomplissement des détails des recommandations de Dieu qui a été justifié, mais c'est le péager. Donc il y a plusieurs exemples. Il y a l'exemple de Zachée, il y a l'exemple de la femme qui est venue répandre ses pleurs aux pieds de Jésus en les essuyant, qui était considérée comme une pécheresse. Donc il y a tous ces exemples-là qui montrent, et que c'est ce que Paul est venu confirmer, que avec Dieu, c'est une histoire de cœur. Et le frère Jacques, et même Paul, là maintenant, au moment où nous lisons, Paul fait une mise au point pour dire, d'accord, je vous ai prêché le fait qu'on était libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ce n'est pas une question de ne pas faire ceci, ne pas faire cela, faire ceci, faire cela. C'est une question d'amour. C'est une question de relation. Si tu aimes Dieu, tu feras le bien. Donc, et Paul avait insisté là-dessus. Et les gens en ont profité pour dire, j'aime Dieu. Bon, tout m'est permis. Ce n'est pas ce que je fais qui est important. C'est ma disposition qui est importante. Et ils en ont fait une raison, un prétexte pour commencer à faire des mauvaises choses en disant « Non, je me contrôle, je sais ce que je fais, de toute façon, j'aime le Seigneur, ne me jugez pas. » Et Paul a dit « Non, d'accord, tout m'est permis, donc on n'est pas lié par un code pénal ni un code civil, on est lié par l'amour à Dieu. Donc on peut faire ce qu'on veut, mais attention, dans ce qu'on veut là, si ça produit l'esclavage en nous, si ça produit la destruction en nous, si ça nous expose à chuter dans le péché, nous devons rejeter cela. Voilà, donc nous devons pas, parce que tout nous est permis, de nous exposer. Donc je répondrai à cette question de cette manière-là. D'accord, on peut dire, je veux regarder quelque chose pour mes connaissances personnelles, ma culture personnelle, mais soyons francs avec nous-mêmes. Dès que ça commence à nous exposer au mal, à la chute, soyons honnêtes, francs avec nous-mêmes pour l'avouer et demander l'aide de Dieu d'arrêter cela. Voilà, c'est comme ça que je peux répondre à cette question. Bon, s'il n'y a pas d'intervention par rapport à cela, nous allions entamer autre chose, mais bon, le temps est déjà passé. Je voudrais faire peut-être une mise au point par rapport au camp biblique des adultes qui a été prévu. Je crois le 19 mars, il se fait que c'est des jours ouvrés, des jours où les enfants sont à l'école. Je crois que j'avais choisi ça à cause de ça pour que les parents soient libérés. Mais j'ai plutôt eu un son de cloche contraire, donc il semble que ça n'arrange pas. Voilà, on voulait voir si c'était mieux de faire le camp biblique des adultes au moment où les enfants ont école ou pas. Je voulais faire voir cela avec vous. Donc, comme il y a silence, donc on va plus lever la main. Je vais demander, ça arrange qui que ce soit au moment où il y a école? Bon, ça arrange qui au moment où il n'y a pas école? On ne sait pas qui a gagné, là. Donc, il n'y a pas une majorité très claire. Bon, donc, oui.
Je voulais signaler tout simplement ceux qui disent que ça les arrange lorsqu'il y a école, à savoir que le camp biblique, on arrive parfois jusqu'à 20h, 22h. Donc, les enfants ne vont pas rester jusqu'à 20h à l'école.
Non, mais j'allais dire... J'ai eu peur des féministes, mais j'allais dire que les femmes allaient rentrer avec les enfants à la maison. Mais comme je ne veux pas me faire attaquer en sortant, je dis, bon, ils vont s'entendre sur qui va garder les... Et puis, il y a les jeunes, donc on va utiliser les jeunes pour garder les enfants. Ok, bon.
Pasteur, la vraie question qui a été posée, c'était est-ce que c'était bien que ce soit lundi, mardi, mercredi ou bien le week-end ? C'est ça le problème, parce que c'était en début de semaine, et c'est vrai par rapport à la garde des enfants. Bon, moi, personnellement, les remontées que j'ai eues, c'était par rapport à ça, que si on mettait le week-end comme on fait d'habitude, ça serait mieux que ça soit...
Bon, d'accord, on mettra le week-end. Ok, on mettra jeudi, vendredi, samedi, ou deux jours seulement vendredi, samedi. Voilà. Ou deux jours seulement, vendredi, samedi, samedi soir. Mais toi, parce que comme tu travailles, mais tu vas, que ce soit lundi, tu vas rater, que ce soit mardi. Ah oui, pendant les vacances, mais là, les vacances sont déjà passées, donc on ne peut plus... Mais il y aura non, mais c'était pas pour cette semaine. Mais on va pas décider le camp improvisé là. Donc c'était, et donc on fera un autre camp en pensant à toi. Donc pendant les vacances. Alors. Oui, mais faisons déjà ce camp. Donc si on doit faire un autre, on le fera encore. Parce que sinon, on va se mettre en retard par rapport à certaines choses. Oui.
Bah, au final, c'est quand alors?
Donc on mettra ça un week-end. Donc on va mettre les dates. Donc le week-end de la même semaine. Hein. Il faut qu'on vérifie, quoi. Donc, on vérifie et puis on annonce ça demain.
Parce que moi, je voulais dire que les personnes qui ne veulent pas que ça soit pendant l'école, il faut qu'ils aient un vrai motif. Il ne faut pas que ce soit juste parce que, oh, bof, voilà, quoi. Il faut voir aussi...
Non, mais Patrick a expliqué qu'il y en a qui ont émis la préférence du week-end. Donc, c'est, il y a un temps d'école, mais c'est le week-end. Voilà. Soit le week-end, soit le week-end. Voilà. OK.
Si c'est le week-end, obligatoirement, c'est deux jours, si je comprends bien. Parce que ce soit début de semaine ou fin de semaine, on a toujours trois jours. Parce que lundi, mardi, OK, les gens travaillent, enfin, les enfants vont à l'école, mais mercredi, les enfants ne vont pas à l'école. Vendredi, samedi, enfin, jeudi, vendredi, samedi, c'est pareil. On a toujours une journée qui est ouverte, en fait.
Donc, si oui, c'est donc ça sera deux jours, peut-être, vendredi, samedi, c'est tout.
Voilà, donc si c'est le week-end, c'est deux jours.
Voilà.
OK.
Ou encore, comme tu dis, qu'il y aura peut-être un autre. Bon, on garde les dates et puis on fera un autre pendant les vacances scolaires.
Non, on fait vendredi, samedi quand même et puis on fera un autre pendant les vacances. Mais le problème, c'est que là, il faut vraiment s'organiser fortement pendant les vacances parce qu'il faut savoir occuper les enfants. Voilà, c'est ça la grosse difficulté. Voilà, OK. Donc, on laisse ça en réflexion. À la prochaine réunion d'équipe... on va voir comment bien faire les camps des adultes. Donc, que chacun réfléchisse pour intervenir à la prochaine réunion d'équipe. Oui.
C'est hors sujet, mais est-ce que nous, on aura aussi un camp biblique les prochaines vacances ?
Il y a tout un calendrier qui est dans le bureau.
Oui, mais nous, on ne le voit pas, le calendrier qui est dans le bureau.
Vous pouvez entrer dans le bureau, il n'y a pas de... C'est un bureau, tu frappes, tu entres. Voilà. OK.
Ouais, mais quand on demande aux parents, ils disent qu'il faut être dans les équipes pour savoir ça.
Non, mais... Non, le calendrier se trouve dans le bureau. Et le bureau est ouvert. OK. Tout le monde peut entrer dans le bureau. Voilà, il n'y a pas de coffre-fort là-bas. OK, donc il y avait un sujet qu'on devait échanger. C'était le processus de la chute, quoi. En parlant des hommes puissants de ce monde, que ce soit les musiciens, que ce soit les vedettes du cinéma, que ce soit les présidents, on allait parler du processus de la chute. Non, le processus de l'élévation et de la chute. Comment ils s'élèvent et comment ils tombent. Voilà, bibliquement, on allait en discuter parce que les choses se répètent. On a vu dernièrement Whitney Houston, on a vu Mohamed Ali, on a vu tout ça. Il faut qu'on examine ça. Vous savez pourquoi ? Parce que ça peut nous arriver à nous tous. Donc, chacun de nous peut être élevé dans quelque chose et on va parler donc du processus d'élévation et de la chute afin que nous voyons les pièges que le diable tend pour tuer quelqu'un qui est appelé à être élevé. Voilà, d'une certaine manière par Dieu ou par la... Ça s'appelle comment ? Par les événements. Voilà, donc nous allons en discuter donc mardi. Pas peut-être mardi prochain, parce que mardi prochain, c'est mardi info. Et donc, ceux qui ont des sujets d'actualité qui veulent qu'on examine, donc on en parlera mardi prochain. Déjà, le mardi info, nous allons toucher le fait qu'aux États-Unis, surtout aux États-Unis, il y a la théorie, ce qu'on appelle la théorie du genre en France. C'est la théorie qui veut que l'homme choisit, il choisit qui il est. Homme ou femme, il choisit son genre, c'est ça. Il choisit son genre avec le temps. Donc, il n'est pas homme, il n'est pas femme, il le choisit. Voilà, c'est la nouvelle théorie démoniaque qui est à la mode et qui, aux États-Unis, fait déjà fureur. Il y a beaucoup d'enfants qui choisissent de changer, de devenir homme ou femme. Et c'est très, très sérieux. Aux États-Unis, ça fait vraiment fureur. Donc nous allons, entre autres, toucher ce sujet-là. Ok, nous allons prier pour remercier le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ces échanges que nous avons eus concernant des questions difficiles parfois, récurrentes et essentielles. Et nous prions que tu nous aides à retenir dans tout cela l'importance de la Bible et l'importance de t'aimer, Seigneur. À travers tout ceci, nous avons compris, Seigneur, que la relation avec toi était quelque chose du cœur, mais qu'elle se manifestait à travers des œuvres divines, des œuvres du Saint-Esprit. Seigneur, aide-nous à réaliser cela. Aide-nous, Seigneur, à considérer que ta parole ne change pas, elle est immuable. Et que lorsque nous sommes en but à des cas difficiles, Seigneur, que nous puissions espérer en toi qui est notre solide berger, grand berger, d'intervenir même auprès des petits bergers comme nous, Seigneur, pour nous éclairer, pour régler certaines questions difficiles, Seigneur. Au nom de Jésus, nous venons te dire, Seigneur, que nous comptons sur toi, que tu nous gardes dans ta parole, à jamais, jusqu'à ton retour. Amen. Que Dieu nous bénisse.